Chapitre 2. L'appareil se posa dans un concert de bruit hétéroclite. On percevait les chuintements distants de l'air frappant la coque métallique du vaisseau à mesure que celui-ci se frayait un passage à travers l'atmosphère. On entendait le ronronnement des climatiseurs luttant pour compenser l'échauffement dû à cette friction, et le ronflement, un peu plus sourd, des moteurs en phase active de décélération. Puis, en arrière-plan, la rumeur insistante des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement et le grincement des palanques qui entraînaient les bagages, le fret et le courrier en direction de l'axe principal du vaisseau, d'où tout cela serait ensuite acheminé vers la plateforme de déchargement. Gall sentit une légère secousse. Elle indiquait que le vaisseau ne se déplaçait désormais plus de façon autonome. Depuis plusieurs heures déjà, la force de gravité de Trantor remplaçait graduellement la pesanteur artificielle qui régnait jusqu'alors à l'intérieur de l'appareil. Des milliers de passagers patientaient, assis, dans les salles de débarquement qui pivotaient tout entières, sans aucun heurt, au gré des champs de force qui s'ajustaient sans cesse, afin de s'aligner sur la nouvelle direction dans laquelle s'exerçait l'attraction de la planète. Puis, vint enfin le moment où cette foule grouillante put descendre les larges rampes qui menait au sas désormais béant du vaisseau. En fait de bagages, Gall ne s'était encombré que du strict minimum. Il s'arrêta à un guichet. On ouvrit ses valises, on les inspecta, et on les referma aussitôt avec la même dextérité. On vérifia son passeport, on y apposa un visa. Il ne prêta aucune attention à toutes ces formalités. Il était sur Trantor. L'atmosphère y semblait un peu plus dense, la pesanteur un peu plus forte que sur Synax, sa planète natale. Mais il s'y habituerait. Il se demanda toutefois s'il se ferait jamais à l'immensité de tout ce qu'il voyait ici. La gare de débarquement était immense, on distinguait à peine le plafond. Pour un peu, des nuages auraient pu se former sous cette voûte, songea Gall. Quant à la muraille du fond, il ne l'apercevait tout simplement pas. Il n'y avait devant lui que des hommes, des guichets et des allées à perte de vue. L'employé du guichet s'adressait à nouveau à lui, sur un ton agacé. « Vous pouvez y aller, Dornick. » Il lui avait fallu rouvrir le passeport de Gall, y retrouver son nom, qu'il avait déjà oublié. « Où est-ce que… » commença Gall. L'homme tendit le pouce en direction de la sortie. « Les taxis, c'est à droite, puis la troisième à gauche. » Gall s'exécuta. Dans le vide, au-dessus de lui, flottaient des lettres lumineuses. « Taxi, toute direction. » Une silhouette se détacha de la foule, s'arrêta devant le guichet que Gall venait tout juste de quitter. L'employé releva la tête et adressa aussitôt au nouveau venu un bref hochement de tête. L'inconnu lui répondit de la même manière et suivit le jeune immigrant. Il était arrivé juste à temps pour entendre quelle destination avait prise Gall. Gall se heurta à une grille. Un panonceau annonçait « responsable ». L'homme dont il était question sur cet écriteau demanda sans même lever les yeux « quelle direction ?» Gall hésita, mais quelques secondes suffirent pour que se formât derrière lui une longue queue de voyageurs impatients. « Vous allez où ?» répéta le responsable en levant cette fois les yeux vers Gall. Celui-ci n'avait que peu d'argent, mais après tout, ce n'était l'affaire que d'une nuit avant qu'il pût, dès le lendemain, intégrer ses nouvelles fonctions. Il essaya de prendre un air dégagé. « Un bon hôtel, s'il vous plaît. » Le surveillant répondit sans s'émouvoir. « Ils sont tous bons. » Auquel voulez-vous aller ? Au plus proche ? Murmura Gall en désespoir de cause. Le responsable pressa un bouton. Un mince ray de lumière se forma alors sur le sol où serpentait déjà une multitude de lignes colorées aux nuances infinies. On glissa ensuite un billet dans la main de Gall. Il était légèrement phosphorescent. Un crédit 12, dit le responsable. Gall chercha de la monnaie dans ses poches. « Je vais où maintenant ? » demanda-t-il. « Suivez la ligne lumineuse, Votre billet continuera à briller tant que vous irez dans la bonne direction. » Gall se mit en route, le nez en l'air. Des centaines de personnes arpentaient comme lui la salle gigantesque, chacun suivant son itinéraire qui croisait ou chevauchait parfois celui du voisin. Gall parvint à sa destination. Un homme, vêtu d'un uniforme bleu et jaune criard en plastoc textile intachable, s'empara aussitôt de ses deux valises. « Ligne directe pour le Louxor, » dit-il. L'homme qui suivait toujours Gall l'entendit. Il entendit aussi Gall dire « Parfait !» et il le regarda monter dans le petit véhicule au nez camu. Le taxi s'éleva à la verticale. Gall regardait par la baie vitrée incurvée et transparente en se cramponnant instinctivement à la banquette. Il s'émerveilla de la sensation inédite que lui procurait ce vol en vase clos. Les proportions lui semblèrent s'inverser. Désormais, la foule lui paraissait constituée de petits groupes de fourmis disséminés à travers l'immensité du hall. Le phénomène se poursuivit et la scène tout entière finit par disparaître à sa vue, loin derrière lui. Parvenu à une grande hauteur, le taxi se retrouva face à un mur dont la partie supérieure se perdait dans le lointain. Il était criblé d'une multitude de trous qui étaient en fait autant de tunnels. Le chauffeur se dirigea vers l'une de ces entrées et s'y engouffra. Il y en avait tellement que, l'espace d'un instant, Gall se demanda comment l'homme pouvait bien s'y prendre pour les distinguer les unes des autres. Une obscurité totale régnait désormais, que trouait de loin en loin la lueur colorée d'un signal. Un chuintement continu emplissait la cabine. Gall se pencha en avant afin de contrebalancer la décélération, puis le taxi déboucha du tunnel et redescendit au niveau du sol.
« L'hôtel Louxor !» annonça bien inutilement le chauffeur.
Il aida Gall à descendre ses bagages, accepta le plus sérieusement du monde un pourboire d'un dixième de crédit et, le temps de faire monter un client qui attendait là, reprit l'air. Depuis l'instant où il avait débarqué, Gall n'avait pas aperçu le ciel une seule fois.